Évidemment, c'est très gênant de terminer par là. Mais d'autre part, je crois que c'est quand même très important. Étant donné notre très grande difficulté de saisir les choses les meilleures, les choses les plus qualitatives, surtout dans notre monde d'aujourd'hui, on est beaucoup plus sensible, pas à vous, mais à la quantité. Et la qualité, quelquefois, disparaît sous l'aspect de la quantité. Il faut quelquefois que Dieu y mette directement la main pour que la quantité et la qualité vont de pair. Je pense à Cana. À Cana, de fait, qualité et quantité vont de pair. 600 hectolitres de vin nouveau. C'est quand même pas mal. Et les apôtres, notre Seigneur n'a pas donné l'ordre d'emporter ce qui restait. Tandis qu'il a donné l'ordre d'emporter tout ce qui restait pour la multiplication des pains. Je présume que d'un côté, ça pouvait être apologétique, mais pas de l'autre du tout. Voyez ça, les 12 apôtres avec des... sur le dos, le vin qui restait. Ce serait un sujet très intéressant à creuser, le sujet de ce soir. Alors, je ne vais donner que des pistes de recherche. Vous voyez tout de suite la grande objection qu'on peut faire. Vous avez intitulé, du moins le titre est intitulé, le fanatisme, l'ostracisme, l'intolérance, le sentiment de culpabilité et le scrupule, qui sont comme les excroissances passionnelles de l'homme religieux. Alors le premier problème qui se pose tout de suite, c'est que la vertu de religion qui fait l'homme religieux, la vertu de religion est au-dessus de la passion. Elle est dans la volonté. Et elle permet d'opposer, comme nous l'avons vu, l'acte d'adoration. L'acte d'adoration est un acte volontaire. Et cet acte volontaire regarde une réalité invisible et regarde en nous, en l'homme, ce qu'il y a de plus profond, son lien avec le Créateur. C'est au-delà de tout sentiment religieux. Il faut bien distinguer le sentiment religieux, quelqu'un qui est très sensible à l'odeur de l'encens. Dans une chapelle où vient d'avoir un office, il y a une odeur d'encens. Il faut certaines personnes qui disent « Oh, comme c'est religieux !» Sentiment. Ou on est dans un lieu particulièrement obscur, avec simplement une lumière, un jeu de lumière, qui peut évoquer certains sentiments religieux, faire naître certains sentiments religieux. Alors, le problème consiste d'abord à montrer que notre affectivité, je l'ai déjà dit mais je reprends ce soir, notre affectivité, la plus spirituelle qui soit, est toujours liée à des états passionnels. Toujours. Et même instinctifs. Je ne peux pas, du côté affectif, abstraire le point de vue sensible. Il y a des connaissances qui peuvent s'abstraire du sensible immédiat. Les mathématiques. Je ne crois pas qu'il y ait des sentiments mathématiques. Je ne crois pas. Le mathématicien cette noblesse de l'intelligence qui fait qu'il est au-delà de toute émotion mathématique ou sentiment mathématique. La métaphysique, au sommet, fait appel à certaines affectivités. Elle se termine en sagesse. Et l'amour de la vérité est nécessaire, je crois, pour atteindre ce sommet philosophique. Difficile à atteindre. Il faut un très grand amour de la vérité pour pouvoir dépasser toutes les difficultés. Tandis que lorsqu'il s'agit du point de vue affectif, c'est l'homme qui aime, même quand son amour est très spirituel. C'est-à-dire quand il s'agit d'un amour qui, de fait, s'oriente vers Dieu. S'oriente vers l'absolu. Quand il regarde la personne humaine, on comprend très bien que l'affectivité est présente, puisque c'est le bien concret qui est l'homme tout entier. On n'aime pas tel aspect de l'homme, on aime l'homme tel qu'il est. C'est lui qui est l'ami. Et donc c'est normal qu'à ce moment-là, toute l'affectivité soit présente. Quand il s'agit de l'attitude religieuse, de l'adoration ou de la contemplation, c'est beaucoup plus délicat, puisque de fait, cet amour doit dépasser tout l'aspect sensible pour atteindre quelque chose qui va beaucoup plus loin. Le sommet, la transcendance. Eh bien, même là, la passion est toujours présente. Un homme religieux, un contemplatif, est nécessairement un affectif. Et c'est une qualité. Ce n'est pas du tout un défaut. Cette affectivité doit être assumée, doit être dépassée, d'une certaine manière, mais elle est toujours présente. C'est là où on pourrait dire, n'est-ce pas, que quelqu'un comme Descartes a eu une terrible influence sur l'aspect religieux du peuple français, parce qu'il n'a absolument pas compris cette affectivité spirituelle. Et ça, je crois que ça a marqué la France. De voir uniquement que la volonté est une volonté d'efficacité, et pas une volonté affective. Pour lui, l'affectivité est passionnelle, et uniquement passionnelle. Ça explique beaucoup de choses. Il y aurait là, du reste, quelque chose de très intéressant à étudier de près. Mais Descartes, grâce à Dieu, n'a pas tellement marqué l'aspect religieux. Il a marqué notre intelligence, mais l'aspect religieux, je n'ai jamais vu l'abbaye cartésienne, au sens de Descartes, jamais vu. Descartes ne domine pas dans les abbayes et dans la liturgie. Il n'y a pas une liturgie particulière à Descartes. Il n'y a pas une musique spéciale de Descartes, musique liturgique. Mais ça a marqué quand même certains sentiments. Ce qui est sûr, c'est que l'attitude religieuse, dans ce qu'elle a de plus fondamental, éveille en nous nos passions. Du concupiscible et de l'irascible. Et puisque la volonté religieuse, dans l'adoration, dans la dévotion au très grand sens, dans l'aspect du sacrifice, dans l'aspect de la liturgie, tous ces aspects que nous avons vus font appel à l'homme tout entier. Et par le fait même que cette volonté touche ce qu'il y a de meilleur dans notre volonté humaine, je ne parle pas de la grâce surnaturelle, je parle uniquement de l'homme comme homme et comme créature de Dieu. L'aspect religieux touche, détermine ce qu'il y a de plus profond dans notre volonté humaine. Donc, ce qu'il y a de plus humain, je tiens à le redire, je l'ai dit au début, je tiens à le redire au terme. Supprimer l'attitude religieuse, pour l'homme, c'est le mutiler. Un homme qui veut être parfaitement homme dans son développement humain demande de découvrir d'où il vient. Et donc de découvrir l'existence d'un être premier qui est le Créateur. Et dès qu'il découvre que l'être premier est le Créateur, l'attitude affective volontaire commande cette découverte et l'adoration et la louange et le sacrifice. Je crois ça très important de se le rappeler. Donc l'attitude, la volonté d'adorer reste humaine. Et la supprimer, c'est mettre l'homme dans un refoulement le plus radical qui soit, avec des quantités de conséquences. Vous savez bien, je fais appel ici à un texte de l'Évangile que nous connaissons tous, si nous avons l'habitude de lire l'Évangile, dans l'Évangile de Saint Jean, la Samaritaine. Elle explique le refoulement qu'elle a connu dans sa jeunesse. Les grandes personnes parler devant cette petite Samaritaine, très profondément religieuse. La querelle liturgique, puisque des querelles liturgiques, il y en a tout le temps, la querelle liturgique entre les Juifs et les Samaritains. Les Juifs disaient qu'il fallait adorer au temple, les Samaritains en haut des montagnes, du Gazarim. Et cette petite enfant de Dieu, écoutez ça. Vous savez, les grandes personnes font des discussions liturgiques et il y a des gosses qui entendent. Et on ne sait pas le tort qu'on peut faire. Parce qu'on brise un élan très très profond par cette discussion. En disant, c'est telle chose, voyez, je ne transpose pas, hein, mais c'est facile à faire. Et on voit très bien ce qui peut se passer dans le cœur d'un enfant. Alors il ne sait plus, puisqu'il y a des deux côtés des autorités. Alors ça brise un élan. Et alors on voit la conséquence, si l'élan affectif le plus profond est brisé, il y aura des répercussions au point de vue humain. C'est pas normal d'avoir cinq maris quand même. Conséquence d'un refoulement religieux. Je crois que c'est dans l'évangile de Saint Jean pour nous éclairer là-dessus. C'est peut-être pas le premier sens, mais c'est quand même une réalité profonde. La Samaritaine a été traumatisée dès sa jeunesse. Il y a un traumatisme religieux. Et la conséquence, c'est qu'elle n'a plus confiance et qu'elle ne sait plus aimer. Parce que quand on a touché à la confiance à l'égard du Créateur, il y a d'immenses répercussions. On sait ça. Je me souviens, à Fribourg, d'avoir eu contact avec certains qui avaient été éduqués en plein marxisme, en Hongrie, en Roumanie, en Tchécoslovaquie, et même en Chine. mettait du temps, et le disait, à retrouver une spontanéité dans l'amour. Parce qu'il y avait eu ce refoulement dès la jeunesse. Chaque fois qu'on pouvait, on riait, on ironisait l'attitude religieuse. Ce qui est le pire, devant un enfant. Oui, on disait que le bon Dieu était caché dans l'armoire. Puis de temps en temps, on ouvrait, puis alors on voyait un petit Jésus. On m'a raconté ça, c'est pas des choses que j'ai inventées, vous comprenez. J'aurais pas pu les inventer. Mais à chaque fête, il y avait ça. Il y avait une espèce d'ironie pour montrer que tout ça, c'est de la blague. Pour supprimer le sens religieux, le casser. Parce qu'on ne peut que le casser. Il est naturel. On ne peut pas le supprimer. Mais on peut briser tous les élans. Et alors, en brisant tous les élans, on fait le refoulement. C'est connu. Le refoulement, c'est ça. Et on fait un transfert. Pas très élégant, du reste. Parce que bon, c'était pas très fort comme transfert. Alors, c'est ça que je voudrais avec vous comprendre. Comment la vertu de religion qui vient déterminer, approfondir en nous cet appétit naturel religieux à l'égard du Créateur, de la partie à l'égard du tout, comme dit saint Thomas. Si vous arrêtez cela, d'une manière ou d'une autre, l'état passionnel va se déclencher. Alors que la vertu de religion, si elle est acquise normalement dans un climat sain au plan religieux, est assumée par la volonté, et donc transformée et spiritualisée. La passion n'est pas religieuse en soi, c'est bien évident. Il n'y a pas une douzième passion qui s'appelle la passion religieuse. Non. Les passions sont quelque chose d'élémentaire. Ça touche le point de vue sensible. Mais comme la vertu de religion assume tout l'homme dans les gestes et les paroles, et comme il y a une liturgie, et la liturgie éveille les passions, c'est bien évident. Elle éveille les passions du concupiscible, un très bel office, c'est beau, on voit pas le temps passer, ça c'est le plus grand éloge d'une cérémonie religieuse qui a duré 4 heures, on n'a pas vu le temps passer, j'ai envie de dire, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous avez fait? On n'a pas vu le temps passer, c'est extraordinaire, donc on ne s'est pas ennuyé, alors 4 heures à l'église, vous comprenez, quand même, c'est un chef-d'œuvre de faire qu'on reste 4 heures. À l'opéra, on peut rester, mais à l'église. Donc, on voit ce que ça veut dire. C'est très significatif. C'est très vrai que la vertu de religion s'enracine en nous, éveille un concupiscible religieux par la vertu de religion. Indéracible, oh, très fort. Vous voyez, l'irascible de ceux qui sont contre telle forme religieuse, liturgique. On a l'impression qu'à ce moment-là, l'irascible est terrible. Pourquoi? Parce qu'on veut être des chevaliers de Dieu. Et on a l'impression que cette liturgie, moins belle que la précédente, bien, attaque Dieu. Alors que saint Thomas nous dit textuellement, la liturgie c'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Thomas d'Aquin dit ça. La liturgie, c'est pas pour Dieu. C'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Et on se vient de défenseurs au nom de Dieu. J'ai envie de dire, écoutez, taisez-vous. Un peu de calme, cher. Si vous êtes vraiment mes défenseurs, cherchez la vérité. Et ne vous laissez pas emporter par la passion. La vérité touche Dieu. Directement. Mais pas la liturgie. Si belle qu'elle soit. Elle ne touche pas Dieu. Elle est faite pour les hommes. C'est pour ça que saint Thomas, c'est très beau de voir ces choses-là au Moyen-Âge. où il y avait quand même une très belle religion, une très belle liturgie, et c'était un moine, et c'était la liturgie dominicaine qui avait puisé à la liturgie des Chartreux, liturgie très sobre, liturgie très simple, très brillante, tout intérieure. C'est vrai, quand on assiste, j'ai eu la joie d'assister quelquefois aux fêtes de la Grande Chartreuse, c'est quelque chose. Parce que ça a une intériorité magnifique. Il s'occupe pas du tout savoir si c'est juste ou pas juste. On a absolument l'impression que ça leur est totalement égal. Mais il prie. Et il prie en chantant. Chacun dans sa voix. Alors il y a des rossignols, il y a des moineaux. Et quelquefois des corbeaux. Alors il prie avec cette espèce de simplicité, mais. Moi, ça me ravit, ça. Parce que c'est la basse cour de Dieu. Qui est odieux comme il peut. Alors, vous voyez, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la vertu de religion, mettant en acte ce qu'il y a de plus profond en nous, éveille des passions extraordinaires. Belles. Et quelquefois terrible. C'est pour ça qu'il y a des excroissances. Et ce sont ces excroissances que je voudrais parler avec vous. L'excroissance la plus connue, c'est le fanatisme. Fanatisme religieux. C'est assez affolant. On adore tous le même Dieu. Quand le pape a uni tous les hommes religieux qui adoraient le Créateur, il a voulu donner une douche d'eau froide à tous les fanatismes pour comprendre qu'il y a quelque chose de bien plus profond qui nous unit. C'est que nous regardons le même Père et le même Créateur. Et c'est ça qui devrait apaiser tout notre irascible. Parce que le fanatisme, c'est de l'irascible. On exclut l'autre. Tout simplement parce qu'il n'a pas la même religion que nous. Il n'a pas la même manière de prier. Il n'a pas les mêmes gestes. Il n'a pas la même langue. Alors on ne peut pas prier. Mais Dieu fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Dit le psaume. Alors, si on adore le Dieu qui fait luire son soleil sur les bons et les méchants, l'adoration devrait pacifier notre cœur. Pas du tout, d'oublier le respect qu'on doit à l'égard de Dieu. Ah, pas du tout. Le fanatisme ne porte pas là-dessus. Être blessé quand on ne respecte pas un lieu saint, c'est une sainte réaction. Parce qu'il n'y a pas de familiarité avec l'art de Dieu. On a quand même une attitude qui doit se rectifier quand on est en face de Dieu. Ce qui est dit encore dans l'évangile de Saint Jean, à la fin, tout à fait à la fin. Vous savez, quand Pierre a rassemblé tous ses amis, tous les disciples du Seigneur, parce qu'il n'y avait plus rien à manger, sans doute. La caisse devait être vide. Il leur a dit, passons la nuit pour pêcher. Puis il n'a rien pris. Alors, Jésus était là qui les attendait. Et quand Jean devine que c'est le Seigneur. Il sait le Seigneur. Pierre rectifie là-dessus. Tout de suite. De lui est saint. Parce que le Seigneur est là. On rectifie là-dessus. Oui. L'habit ne fait pas le moine, ne fait pas le religieux, mais l'habit, quand même, exige une certaine rectitude pour manifester la présence de celui qui est saint. Ça va jusque-là, vous voyez. Comprenons que le fanatisme ne porte pas sur le respect à l'égard de Dieu. Le fanatisme, cette passion de l'irascible qui se met au service, soi-disant, de la gloire de Dieu, mais en réalité, qui se met au service de notre manière de glorifier Dieu, de notre manière unique de glorifier Dieu, de notre manière la plus merveilleuse de glorifier Dieu. Donc ça porte sur les gestes humains de l'homme religieux, et non pas du tout sur le respect à l'égard de Dieu. Vous n'avez qu'à regarder tous les fanatismes que vous pouvez connaître. C'est toujours un aspect exclusif. On ne regarde pas l'intention de l'autre, mais on regarde ses gestes, on regarde sa manière de se tenir. Et surtout, on regarde sa manière d'adorer Dieu, sa manière de glorifier Dieu. Et on rejette toutes les autres formes. Le fanatisme provient de cette excroissance de l'irascible qui fait qu'on rejette absolument. C'est la forme, je veux dire, la plus nette de l'excroissance. C'est pas étonnant, la plus visible. Parce que l'irascible, c'est toujours ce qu'il y a de plus visible. C'est ce qu'on voit le mieux. Le concupiscible, il peut encore se cacher. Tandis que l'irascible, ça se manifeste. Vous voyez tout de suite quand un homme est en colère. Ça se voit tout de suite. Tandis que ça se voit beaucoup moins quand un homme est dans la joie. Il peut contenir sa joie. Quelquefois, il a une joie exubérante, mais normalement, il contient sa joie. Tandis que l'irascible ne se contient pas. La colère, ça se manifeste. Il y a un autre aspect, beaucoup plus subtil, qui est la corruption du sentiment religieux et qui conduit à une sorte de pharisaïsme. Il y a un pharisaïsme religieux qui veut qu'on soit le modèle. Regardez-moi comme je prie bien. Si vous me regardez en priant, vous serez tout de suite complètement prise et vous suivrez. Et c'est cet aspect d'immanence de l'attitude religieuse. C'est vrai, je vous ai dit au début, l'expérience religieuse ne touche pas Dieu immédiatement. C'est la foi qui touche Dieu. Mais la vertu de religion dans son exercice, le plus intérieur, la dévotion, l'adoration, ne touche pas directement Dieu. J'ai le sentiment profond de la présence du Créateur. Il est source de mon être. Il est plus intime à moi-même que je ne suis intime à moi-même. Et ceci suffit pour me mettre dans une attitude de révérence. Une attitude de celui qui reconnaît que Dieu est tout. Il se tait. Il se met dans une attitude d'humilité, en prostration, pour vénérer Dieu. Pour laisser Dieu passer devant. puisque c'est ça l'adoration. On laisse Dieu passer devant. On ne veut rien décider de nous-mêmes, puisque c'est Dieu qui est source de toutes les déterminations qui sont en nous. Alors on voit très bien qu'il n'y a pas dans ces opérations, dans ces actes volontaires, religieux, il n'y a pas ce toucher à l'égard de l'autre comme tel. Et par le fait même, il n'y a pas cette rectification directe de la réalité existante. C'est très curieux, ça. Je crois que ça fait comprendre des tas de déviations de la dévotion. Mais cette dévotion qu'on voit, je ne la critique pas, hein, je la regarde ici en tant que philosophe. Oui, parce que je crois qu'il faut être très respectueux même vis-à-vis de certaines de ces déviations. Avant de dire à quelqu'un « tu es pharisien quand tu pries », attention. C'est peut-être sa manière d'artiste, vous savez. Un artiste, quand il prie Dieu, il le prie en artiste, vous savez. C'est assez étonnant. Alors il faut qu'il soit habillé en artiste. Le jongleur de Notre-Dame, il va le surprendre la nuit. Dans la nuit, il aimait manifester en face de Dieu. C'est comme ce, je me souviens, ce bon curé d'une petite paroisse du Valais, du Haut-Valais. C'était la fête Dieu. Alors tout le monde critiquait, on commençait à critiquer. Vous savez, après le concile, on a beaucoup critiqué tout le folklore des processions de la fête Dieu. Et c'est vrai que dans ces paroisses où il y a du bon vin, la fête Dieu se termine très joyeuse. Hein. C'est des paroles liturgiques et qui vont très loin, comme paroles liturgiques. Et puis, à la fête Dieu, on mobilise tout le monde, tous les vignerons sont là, en grande tenue. Du Moyen-Âge, ou pas du Moyen-Âge, c'est le 17e, 18e siècle. C'est très beau. Alors, le curé m'avait invité, puis il m'a dit, à la dernière minute, « Père, vous accepterez. Hein. Je vous ai invité parce que je sais que ça vous fera plaisir d'être là. Mais laissez-moi abréger. Parce que c'est le seul jour de l'année où tous les paroissiens sont là. Ils sont tous là. Chacun dans son costume. Alors il a commencé comme ça. Mes chers amis, vous avez bien. On critique la paroisse. Paroisse assez connue pour ça. On critique la paroisse. Vous savez Dieu. Alors, disait ça avec un petit accent, ça fait Dieu. Mais on dit que c'est du folklore. Mais après tout, Dieu aime peut-être le folklore. Puis il est parti là-dessus. Mais alors, voyez le sens religieux. On se met en dimanche. Pour Dieu, pour la liturgie, on se met en état de fête. Et les vignerons sont en état de fête. Il y a un sentiment religieux là-dessus. Alors évidemment, ça peut dériver ou dévier. Le soir de la fête Dieu, ça dévie un peu. Mais comme on sait que les pays de vin sont catholiques, alors on comprend, n'est-ce pas, qu'il y a quand même quelque chose qui est lié à tout ça. Il y a des dévotions à Saint-Antoine, vous savez bien, qui touchent la superstition. Tu n'as pas mis un cierge à Saint-Antoine le jour d'un examen ou le jour d'une opération d'un ami. Ah, ça va pas. Sûrement que ça n'ira pas. Tandis que si on a mis ça, ça ira. On est sûr. Et ce sont des gestes religieux ou un peu qui ne sont plus tout à fait ce qu'il faudrait, c'est sûr. Du horreur du sang des taureaux et des boucs. C'est vrai, du horreur du sang des taureaux et des boucs. Là aussi, ça me rappelle quelque chose. Je vous dis ça pour que vous compreniez tous ces exemples concrets devant lesquels on se trouve. C'est dans le canton de Vaud, cette fois-ci, pas dans le Valais. Premier dimanche de l'Avent. On m'a demandé de prêcher. On devait toujours prêcher le premier dimanche de l'Avent comme professeur de l'université pour la quête pour l'université. Alors il fallait qu'il voit un professeur d'université. C'était au moment des grandes fantaisies liturgiques. Le curé m'avait demandé de prêcher à toutes les messes. J'avais dit oui. Arrivé à 11h, juste à 11h moins 5, le curé me dit, « Père, je vous ai dit de prêcher à toutes les messes, mais la messe de 11h, sans doute, ne vous ira pas très bien. C'est la messe du vicaire et des jeunes, alors je vous dispense de prêcher. » Je dis, « Monsieur le curé, vous me dispensez, mais vous m'avez demandé de prêcher à toutes les messes. Oh, »« Oui, oui. Alors, vous me permettez de prêcher ?»« Oh, très bien, très bien. Je ne demande pas mieux. » Je ne sais pas ce que je dirais, hein. Je prierai. Alors, ça a commencé 5 minutes avant la messe. Toute la fanfare, tout l'orchestre, une messe de jazz numéro 1, l'orchestre tournant le dos à l'autel, et entre l'autel et les gens. Donc, on ne voyait plus l'autel, pratiquement. On le voyait encore, ce qui était un peu plus haut. Mais il y avait l'orchestre. Et puis ça a marché. Et tout le monde, paf, s'est tapé. Alors plus ça tapait, plus... je sentais en moi, et c'est la seule fois de ma vie, où j'ai senti en moi, je crois, l'irascible des prophètes de l'Ancien Testament. Et ça montait. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je dois dire ? C'était assez extraordinaire, il n'y avait plus rien du tout de vraiment religieux. C'était l'expression des jeunes, comme on disait à ce moment-là. Il faut que les jeunes s'expriment. Alors arrivé au moment de l'évangile, j'étais lire l'évangile, et puis je prêchais, et la phrase alors du prophète, « Dieu, horreur du sang des taureaux et des boucs. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Si tout ce que vous faites, vous vous retournez vers l'orchestre qui était là, ils étaient là, tous les jeunes. Si ce que vous faites est entièrement ordonné à louer Dieu, très bien. Je dirais que votre goût est assez spécial, mais je dirais que vos intentions sont bonnes. Si vos intentions ne sont là que pour plaire à ceux qui sont là devant vous, alors c'est grave. Puis j'ai développé ça. Mais écoutez, je me suis demandé après, paraît-il qu'en sortant de là, je n'ai pas été les voir parce que j'ai mieux aimé laisser le curé. Mais ce qui était bon, c'est que le curé à la fin de la messe, il a dit, Père Philippe, merci de ce que vous avez dit. Je n'aurais pas eu le courage de le dire. Mais je vous remercie de le dire. Parce qu'on doit toujours se rappeler ça. Voyez, perversion de la liturgie. C'est perversion d'un sens religieux, ça. Et c'est un aspect d'un sentiment d'excitation. Il s'appelle jusqu'au fin. C'est du concupiscible. C'est de l'irascible un tout petit peu de vouloir dominer. C'est sûr. Parce que le jazz, c'est pas uniquement du concupiscible. Il y a autre chose avec. Alors, il y a quand même quelque chose qui excite très très fortement une volonté de domination. Et c'était net. Il peut y avoir ce pharisaïsme qui est une perversion, où on devient l'idole. Ça peut aller jusque-là, on devient l'idole, parce qu'on veut arrêter l'attention de tous ceux qui sont là, sans la conduire à Dieu. Et on trouve les idoles de l'Ancien Testament, les idoles grecques. les Artémises. On trouve ces idoles qui arrêtent tout. Alors que la liturgie religieuse conduit vers Dieu et commandée par l'adoration. Vous voyez, là, on touche à cette perversion d'une attitude religieuse qui reste dans l'immanence, dans une dévotion et dans un sentiment de dévotion. On croit qu'on adore Dieu parce qu'on fait des gestes. Et très vite, ça se pervertit. Et on veut que ces gestes restent quelque chose qui soit pris comme un absolu. Troisième forme. Oui, j'essaie de comprendre l'irascible, concupiscible. Troisième forme. On se sert de la religion. Alors là, vraiment, pour dominer. Ce qu'on peut appeler un certain cléricalisme. Je crois que le cléricalisme, sous diverses formes, est une perversion d'un sens religieux. On se sert de l'aspect dévotion au plan religieux pour vouloir dominer, voire commander. Alors, c'est plus seulement le pharisaïsme. Le pharisaïsme, on est modèle. Regardez-moi bien et faites comme moi. Oui. Alors, on est modèle. C'est pas la même chose du tout. Il peut très bien ne pas y avoir de pharisaïsme dans le cléricalisme. Mais le cléricalisme représente justement ce fait qu'on se sert de ce que représente le sentiment religieux. Donc, tout ce qui est éveillé comme passion, pas de la vertu de religion, mais tout ce qui est éveillé comme passion, pour attirer, pour commander, pour imposer son bon plaisir, imposer son opinion propre vis-à-vis de telle ou telle forme liturgique. Oui, ça touche un peu le fanatisme. Il y a une intolérance. Oui, l'intolérance prend une forme de fanatisme, l'intolérance peut prendre une forme de cléricalisme. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Dans le cléricalisme, c'est celui qui, dans la communauté religieuse, joue un rôle principal. Il devrait être le plus religieux, donc le plus effacé, puisque l'attitude religieuse consiste à laisser Dieu passer devant. On laisse Dieu passer devant, attitude de politesse à l'égard de Dieu. Et donc celui qui est à la tête d'une cérémonie religieuse, de toute cérémonie religieuse, je parle ici en dehors du point de vue chrétien, je parle de la cérémonie religieuse comme telle. Il faut toujours qu'il y en ait un premier, autrement, ça va dans tous les sens. Il en faut un qui soit responsable. Alors, il peut se servir des gestes religieux, des paroles religieuses, pour dominer. Alors, on a une forme de cléricalisme qui peut prendre des formes très, très variées, suivant les temps. Et des formes quelquefois très masquées. Mais je crois que c'est vraiment comme une déviation du sens religieux. C'est l'homme qui réapparaît. Vous voyez, dans ces trois formes, c'est l'homme qui réapparaît. Dans l'Apocalypse, il est dit que quand les vieillards, les 24 vieillards qui représentent l'humanité, adorent celui qui est sur le trône, le Créateur, adorent l'agneau, Jésus, ils jettent leur couronne avant de se prosterner. J'aime beaucoup ce geste. Jeter sa couronne, c'est-à-dire on jette ce qui est pour nous un signe de distinction, de qualité. Ce n'est pas le philosophe et le théologien comme tel qui adore. Il les oriente. Et donc, quand la vertu et la religion n'est plus là et que l'homme réapparaît avec son ambition, avec son désir de plaire, avec sa soif de séduction, alors à ce moment-là, apparaît au-delà des gestes religieux, des paroles religieuses, de l'attitude religieuse, apparaît le fanatisme, apparaît le pharisaïsme, apparaît le cléricalisme. Vous voyez là, il y a tout un aspect qui serait très intéressant. Je ne fais que vous indiquer des pistes de recherche. Je termine en relevant ce qui était mis. Le fanatisme conduit à l'ostracisme. Donc, rien de particulier. Le fanatisme implique la tolérance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il peut y avoir, alors là, je n'ai pas encore touché à cela, peut y avoir, dans un sentiment religieux, passionnel, où la vertu de religion ne s'exerce plus pour dominer ses passions, il peut y avoir alors à ce moment-là un sentiment de culpabilité et de scrupule, qui sont source d'une angoisse. Je voyais un psychanalyste, 6 mois. Et je lui parlais de l'angoisse. Et je lui ai posé la question. Ne croyez-vous pas qu'il y a une angoisse spéciale qu'on devrait caractériser, qui peut provenir d'un sentiment religieux dévié, qui produit un scrupule ou un sentiment de culpabilité? Il n'a pas nié. Il a dit, j'y avais pas pensé. Alors, il a souri en disant, parce que je suis sans doute pas assez religieux, vous, en tant qu'homme religieux, vous pensez tout de suite à ça. Il dit, oui, parce que je vois que le scrupule est une sorte d'inhibition terrible qui provient de la peur de Dieu. Regardez dans l'Écriture, dès qu'Adam a péché, dès qu'il entend les pas de Dieu, c'est symbolique, hein? Dès qu'il entend les pas de Dieu, il se cache derrière un arbre. C'est symbolique. Sentiment de culpabilité. En face de l'autorité de Dieu. À la place d'avoir un sentiment religieux, de reconnaître sa faute, il se cache. Il y a un refoulement. Il ne présente pas à Dieu son état de misère. Il se cache. D'où il peut naître à partir de là un certain sentiment de culpabilité qui conduit au scrupule et qui peut aller jusqu'à la panique et engendrer vraiment une angoisse. C'est intéressant parce que on doit essayer de guérir le mal par justement ce qui peut le guérir. Je crois que la culpabilité religieuse, le scrupule, ne peut se guérir qu'en qu'en reprenant un exercice vrai d'adoration, dès qu'on le peut, il n'y a pas d'autre moyen. Vous voyez, il faudrait dire ça dans certains hôpitaux psychiatriques. Je donne ce petit exemple. J'ai dû aller une fois dans un hôpital psychiatrique, ici à Paris. Je ne le nomme pas, c'est pas la peine, parce que je suis fiché. Pour aller voir quelqu'un qui m'avait lancé un SOS. C'était très difficile de pénétrer. Je ne dis pas comment. J'ai vu la personne. Ce qui m'a beaucoup frappé, j'étais en dominicain. Je ne vais pas me camoufler. J'étais là depuis 3 minutes. 1, 2, 3, 4. Fille qui était là. Une Suédoise. Une Française. Une Suisse. Sont venues se précipiter sur moi. Père, est-ce que vous pouvez prier quelques minutes avec nous? Ici, on ne prie pas. Et c'est impossible pour nous. C'est insupportable. Ça m'a bouleversé, du reste. Parce qu'il y en avait une, la petite Suédoise, entre autres, qui était qui? Consentait. Vraiment une âme religieuse qui avait sûrement une espèce d'angoisse terrible, de scrupule. Mais est-ce que je ne suis pas possédé par le démon? Est-ce que vous croyez que Dieu m'aime encore? Des questions comme ça, vous voyez, les angoisses. Je crois qu'il y a là quelque chose qui serait très important, que certains psychanalystes autrichiens commencent à creuser pour voir que le refoulement le plus profond, c'est celui par rapport à l'aspect religieux. Vous voyez, quand on refoule tout un pays par rapport au point de vue religieux, on va favoriser une panique généralisée, une angoisse généralisée, d'être errant, qui ne savent plus où ils vont. Si Dieu existe, s'il y a en nous la marque indélébile de Dieu, créé à l'image de Dieu, l'appétit le plus profond qui est en nous, c'est un appétit de rejoindre notre source, qui est Dieu, en l'adorant. Si on supprime ça, si on met le doute dans l'adoration, en prétendant qu'on ne peut adorer que d'une seule façon, et que forcément on est dans la mauvaise, si on commence à infiltrer le doute, à ce moment-là, je comprends très bien qu'il y a un terrible refoulement apocalyptique qui touche ce qu'il y a de plus profond dans l'être humain et qu'il ne peut s'en sortir que si quelqu'un de plus religieux que lui est là pour l'aider. Puisque on a brisé quelque chose, mais il reste quelque chose. On ne peut jamais toucher ce qu'il y a de plus profond dans l'âme créée par Dieu. Notre sentiment religieux, notre appétit religieux, est ce qu'il y a de plus radical en nous. Donc on ne peut jamais le supprimer. On peut briser l'élan. On peut créer un refoulement imaginatif. Mais on peut aussi essayer